Chers frères et sœurs, nous avons cette très belle première lecture qui évoque le juste persécuté. Il faut faire un tout petit peu d'histoire biblique pour bien la comprendre. Vous vous souvenez peut-être, Alexandre avait conquis le bassin méditerranéen, Alexandre le Grand, et il se trouve qu'en Égypte, notamment à Alexandrie, beaucoup de Juifs s'étaient installés. Et devant la diffusion de cette culture grecque, eh bien, il fallait qu'ils fassent un choix. Ou on l'assimile, on adopte les mœurs des païens, le gymnase, etc. Ou on reste fidèle à la loi de nos pères, à notre Torah. Et un certain nombre ont fait le choix de rester fidèle et d'autres de s'assimiler. Et ça a été une lutte terrible, une haine terrible entre ces deux communautés de frères ennemis, de frères juifs assimilés et d'autres qui voulaient maintenir leur tradition. Cela est un peu pour nous rappeler peut-être ce qui se passe aujourd'hui. Les progressistes libéraux attaquant les tenants de la tradition. Voilà. Et assez vite, nous, on se met dans le clan peut-être de ceux qui veulent maintenir les traditions de nos pères. Hein, et on voit bien qu'assez vite, on est moqué quand ce qui nous apparaît comme du bon sens maintenant est montré du doigt comme de l'obscurantisme. Quand beaucoup de petits coups d'épingle nous sont portés, quand on veut être fidèle à la tradition chrétienne de notre pays. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'assez vite, on devient de pauvres victimes. Voilà, on cède à la victimisation qui prolifère partout, y compris en terre catholique, en terre chrétienne. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la première lecture, on va porter un autre regard sur la persécution. Oui, ces juifs fidèles sont persécutés par ces juifs paganisés. Mais quel est le sens de la persécution, sinon une épreuve, au sens le plus strict du terme, c'est-à-dire une possibilité d'accéder à plus de vérité. Écoutons les paroles des persécuteurs à propos du juste. Voyons si ces paroles sont vraies. Et un peu plus loin, soumettons-le à des outrages, à des tourments, nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Qu'est-ce que vaut cette attitude religieuse, finalement ? Quel est son fondement ? Et au-delà de cet odieux désir de destruction, s'il y avait un désir de vérité ? Oui, la persécution, c'est une mise à l'épreuve, et vous le savez, le XXe siècle que nous venons de quitter, eh bien, c'était un siècle où on a eu le plus de martyrs, si on compare même à tous les siècles précédents cumulés. Qu'est-ce que cela a permis de voir ? Eh bien, cela a permis de faire malheureusement apparaître la haine de Dieu qui sommeillait dans le cœur de bien des hommes, mais aussi la fidélité admirable de peuples entiers. J'étais en Lituanie en 1996, donc peu de temps après la chute du mur, et la mémoire du communisme était encore très vive, bien sûr, mais aussi la mémoire de cette fidélité, puisque un tiers des familles catholiques de Lituanie, un tiers des familles, tout simplement, puisque le pays était globalement catholique, avait été déporté en Sibérie, un tiers, par fidélité. Voilà, et bien cette persécution, elle a fait aussi émerger le meilleur. Alors, chers frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de persécution, c'est aucunement ce que je veux dire. Dieu nous en préserve et il ne faut pas la souhaiter. Mais oui, nous avons besoin d'une mise à l'épreuve. d'un examen approfondi de ce qui sommeille en nous, de nos zones d'ombre à faire émerger, de tout ce qui en nous est trouble et qu'il faut débusquer. Car nous ne savons pas ce qu'il y a dans l'homme, nous ne savons pas ce qu'il y a en nous. Alors si ce n'est pas la persécution qui nous met à l'épreuve, qu'est-ce que c'est ? Eh bien tout simplement notre vie de tous les jours, avec ses épreuves quotidiennes, avec nos joies, nos plaisirs, nos attentes, nos projets, les événements heureux ou malheureux qui viennent ponctuer ces existences. Tout cela, c'est une mise à l'épreuve. Et quand nous passons à travers la souffrance ou les difficultés, nous avons tendance à dire au bon Dieu, pourquoi me fais-tu cela ? Ou plus familièrement, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Et j'aime beaucoup ce psychiatre viennois que vous connaissez peut-être, Viktor Frankl, qui dit, mais tu viens avec tes pourquoi ? Mais à travers tous ces événements que tu passes, n'est-ce pas plutôt Dieu qui t'interroge ? N'est-ce pas plutôt la vie qui t'interroge ? Et qui te demande « Qui es-tu ? Que vaux-tu ? Le bien en toi va-t-il résister à ces épreuves ?» Oui, toute notre vie est une épreuve. Vous le souvenez peut-être aussi dans l'Apocalypse, quand on voit cette immense foule qui arrive, eh bien on demande « D'où viennent-ils ? » Et l'ancien dit « Ils viennent de la grande épreuve. » Et cette grande épreuve, c'est bien sûr dans le contexte de Saint Jean les persécutions, mais plus largement toute notre vie chrétienne. Voilà. Et notre vie nous demande « Qui es-tu ?» Mais en cela, elle ne fait que reprendre la parole du Christ qui dit à ses apôtres « De quoi discutiez-vous sur le chemin ? De quoi discutiez-vous pendant que moi j'avais le dos tourné, que je vous précédais ? Autrement dit, qu'est-ce qui habitait le fond de vos cœurs ? Qu'est-ce qui jaillissait du fond de votre intériorité quand vous n'aviez pas le regard des autres, le désir de défendre votre réputation, la contrainte sociale qui pesait sur vous ? Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur ? Qui es-tu dans le secret ? Ne cesse de nous demander Jésus. En 1950, un petit peu après, est paru un roman célèbre qui s'appelait « Sa Majesté des Mouches » de William Golding. Et de quoi il est question dans ce roman ? Un avion qui transporte des jeunes de la bonne société londonienne s'écrase sur une île, ne survivent que la vingtaine d'adolescents, meurent tous leurs accompagnateurs et s'organisent leur vie. Il y a au début les restes de leur éducation, des lois qu'ils ont apprises, etc. Et peu à peu, tout se fissure, tout se craquelle. Il ne reste plus que la sauvagerie de leur cœur et leur cruauté meurtrière. Voilà, ils n'avaient plus de surmoi, si l'on peut dire, plus ces contraintes et à émerger ce qui n'était pas très beau. Et d'un autre côté, si la vie nous interroge, si le Seigneur nous interroge en nous disant « Qui es-tu quand il n'y a pas toutes ces contraintes ?» Nous-mêmes, nous avons peur de l'interroger. Vous l'avez peut-être entendu dans l'Évangile également. Eh bien, Jésus annonce sa passion. Mais surtout, les apôtres ne comprennent pas et ne veulent pas l'interroger. Pourquoi ? Ils disent, restons dans le flou. Ce que Jésus nous annonce là, c'est pas terrible. Ils pressentent un peu ce que Jésus dira plus tard. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi, car le disciple n'est pas au-dessus du maître. Eh bien, tout cela, ils veulent le laisser dans le flou, comme nous-mêmes parfois, quand on sent que nous allons passer par l'épreuve. Et Jésus dit, non, Regardons en face ce qu'il en coûte d'être fidèle à l'Évangile. Alors je pensais à vous, chers jeunes, qui vous préparez à faire des choix importants dans votre vie. Combien ce doit être aussi ce moment, le temps de l'épreuve bien comprise. Vous devez vous poser vos questions par rapport à celui ou à celle qui partagera votre vie, mais que vaut-elle? Sa gentillesse, sa bonté vont-elles durer? Que vaut son cœur? Et finalement, cette question si cruciale qui habite chacune de nos âmes, m'aime-t-il, m'aime-t-elle? La question même que Jésus posera à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre croyait aimer, mais il n'aimait pas. Alors voilà, il faut pouvoir progresser jusqu'à aller vers cette épreuve qui n'est pas toujours facile, pas toujours agréable. Je lisais aussi un auteur médiéval, Hérède de Rievaux, qui a écrit un très beau traité de l'amitié spirituelle et qui dit « Dans l'amitié, il y a des étapes, il y a le choix et puis il y a la mise à l'épreuve. On n'admet pas comme ami n'importe qui. Et il faut laisser sur le pas de la porte un temps avant de pouvoir faire entrer l'autre dans sa propre intimité. » Je me disais aussi, mais arrivé à ce niveau-là, est-ce qu'on ne va pas devenir un petit peu misanthrope en se défiant de toute marque d'affection ou de toute marque d'amitié, comme si c'était intéressé, comme si ce n'était pas loyal? Et c'est vrai que c'est un risque. Mais nous sommes sauvés de tout cela. Nous sommes sauvés parce qu'il y a un remède. C'est regarder celui qui a été mis à l'épreuve jusqu'au bout. Celui qui, dans la passion que nous lui faisions subir, n'a eu ni révolte, ni plainte, ni accusation. Celui qui a su nous aimer plus que sa propre vie. Oui, chers frères et sœurs, la croix reste cette grande école de l'amour. Alors, avec Marie, regardons-la, contemplons-la, nous serons sauvés du doute et nous saurons que le fondement de toute chose, c'est vraiment la charité.